Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir désormais pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravili Lemel. Ravili Lemel, bonsoir et Shavua Tov.
Bonsoir et Shavua Tov.
Alors, on continue d'avancer dans l'étude de notre paracha, ce passage qu'on lit toutes les semaines dans nos communautés. Et alors, là, vous avez décidé, vous, les rabbanim, les uns et les autres, de rester sur Toldot, qui est celle qu'on a lue aujourd'hui, en fait. Parce qu'elle est énorme, cette paracha. Elle a des qualités incroyables. Elles sont toutes énormes. Mais, par exemple, celle-ci, c'est la seule où il y a tous les patriarches, d'après ce qu'on m'a raconté. On m'a dit ça. Et puis elle est charnière, elle a plein de choses. Et d'ailleurs, il y a une des questions cardinales que des générations et des générations de juifs se posent, c'est comment est-ce qu'on peut dire à la fois que Yaakov est l'homme qui incarne le Emet, qui incarne la vérité. Chacun, hein, il a sa caractéristique principale, on le sait, Avraham, Yitzhak, et Yaakov, lui, c'est la vérité. Or, c'est quand même quelqu'un, j'espère ne pas dire de bêtises, mais quand même quelqu'un qu'on voit faire des choses qui n'est pas toujours la vérité. Excusez-moi, c'est de ce que je lis à mon niveau, à moi, que ce soit à Laban, que ce soit à son frère, que ce soit on a vu qu'il ne dit pas tout le temps la vérité. Alors, ça pose une question. Est-ce qu'il a sa vérité à lui, et qui est donc la nôtre sur laquelle nous, on doit essayer de se calquer, ou, et c'est là où on vous attend, Ravili Lemel, excusez-moi encore une fois, est-ce qu'il faut comprendre qu'on n'est pas toujours forcé de dire la vérité, ou qu'il faut... comme dit l'expression française, toute vérité n'est pas bonne à dire. Bon, bref, qu'est-ce que vous nous enseignez sur ça, Ravili Lemel?
Oui, en effet, c'est vrai que cette question, c'est une question fondamentale, parce que, comme vous l'avez très justement dit, Abraham se caractérise par le chesed, l'altérité, Yitzhak par la gvoura, par le din, par la rigueur. Et puis, le verset nous dit clairement à propos de Yaakov, Titen, Emet, le Yaakov, donne la vérité à Yaakov. Donc, on accentue bien sur cette notion de vérité liée à Yaakov. Or, comme vous venez de le dire parfaitement, il y a des choses quand même qui semblent être, j'ai pas envie de dire borderline, mais surprenantes. On va s'arrêter d'ailleurs, par rapport à cette paracha, sur cette fameuse histoire des bénédictions, dans lesquelles Yaakov va se faire passer pour son frère, à la demande de sa mère, c'est vrai. Et quand son père lui dit « Mais qui es-tu ?», il lui dit « Je suis Esav, ton aîné ». Alors, nos maîtres disent qu'on peut en effet résoudre cette problématique en mettant une virgule. Lorsqu'il lui dit « Qui es-tu ?», il lui dit « Annie, je suis, virgule, et Esav est ton premier-né ». Et sans doute, ça a du sens. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Alors, évidemment, je n'aborde pas du tout ici la question de savoir pourquoi Yaakov devait-il recevoir les bénédictions de cette manière. Il y a beaucoup, beaucoup de questions qui tournent autour de ça, et avec des développements qui sont absolument passionnants. Mais je voudrais m'arrêter plus sur justement ce rapport à la vérité. Alors, on va démarrer au fond sur une réflexion toute basique. On a deux éléments fondamentaux dans l'univers. Vous avez la vérité et puis vous avez aussi la paix. La paix, l'harmonie. Or, il y a ici une forme d'antagonisme. Si vous êtes dans la vérité, eh bien, est-ce que la paix pourrait exister? Je vous donne un exemple, alors qui va vous faire sourire. Pardonnez-moi, un exemple très basique. Si mon épouse fait quelque chose, elle m'a fait un plat, que sais-je, enfin voilà, je prends ces exemples un peu, c'est très gros sabot, et bon, ça n'a pas été à mon goût, dans le sens où voilà, j'ai eu l'impression qu'il y avait un manque de, que sais-je, et qu'elle me demande qu'est-ce que tu en penses? Si je lui dis la vérité, bon, même si le couple va bien, mais bon, ça créera, voilà, une petite tension, une micro-tension. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça risque d'atteindre le shalom, ça risque d'atteindre la paix. Et donc, la question, elle est de savoir, mais si on veut être dans le shalom, qui est une notion fondamentale, la vérité peut pas être présente. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, la Torah va nous dire, non pas qu'il faut dire la vérité, mais elle va nous dire midvar, sheker, tichak, ce qui veut dire de tout ce qui a trait au mensonge, tu t'éloigneras. Alors qu'on aurait très bien pu dire, non, dis la vérité. Alors, Pour mieux comprendre cela, eh bien, je voudrais rapporter un point de départ d'une idée que rapporte le Rabbi Friedlander dans un de ses livres, dans son ouvrage Sifte Chaim. Il fait remarquer la chose suivante. Il dit qu'il y a un autre, il y a d'autres notions dans la Torah dans lesquelles on dit il faut s'en écarter. Et c'est laquelle ? Eh bien, c'est tout ce qui a trait à l'univers des relations intimes qui s'inscrivent dans ce qui est interdit. Et on nous dit il faut s'en écarter. Mais on va se poser la question, si je m'écarte totalement et absolument de tout ce qui a trait à l'intimité dans la relation masculin et féminin, eh bien, il n'y a plus de couple, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de futur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de tout ce qui se joue dans le domaine de l'intime, évidemment qu'il faut savoir s'éloigner de tout ce qui n'a pas lieu d'être, mais à un moment, il y a au contraire quelque chose qui se doit d'être, parce que sinon, il n'y a pas de futur. Et au fond, c'est un petit peu ce qu'on est en train de nous dire ici, avec la notion du mensonge. Si je veux être dans une vérité absolue, radicale, la paix n'existera pas, il n'y a pas de futur. Parce que les choses s'arrêtent, parce que les tensions vont se mettre en place. Et donc, on a ici déjà une première idée, c'est qu'il va y avoir à un moment une forme de distorsion, micro-distorsion de la vérité, parce que justement, le but, c'est le futur, le but, c'est continuer à construire. Et d'ailleurs, pour mieux comprendre cela, il y a un texte du Talmud qui nous dit que lorsque Dieu veut créer l'univers, il s'adresse à des attributs qui existent dans le monde. Alors bien sûr, il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc on va le lire au premier degré. Donc Dieu s'adresse à l'attribut de vérité et il lui dit « Vérité, penses-tu qu'il faut créer l'humain ?» Et la vérité de répondre à Dieu, même pas en rêve. Il est rempli de mensonges, hors de question. Et à ce moment-là, Dieu se tourne vers l'attribut de chesed, de bonté, de don, et lui dit chesed, bonté, don, penses-tu qu'on crée l'humain? Et là, la réponse évidemment est oui, ben oui, mal et chesed, parce que l'humain saura donner, saura apporter, saura partager, il y arrivera. Et le texte nous dit que Dieu à ce moment-là prend la vérité et la jette au sol. Et le verset nous dit que emet meret tismar, que la vérité va pousser à partir du sol. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter? Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici qui va avoir une incidence pour mieux comprendre cette idée? On a donc ici la vérité qui semble être jetée au sol et elle va repousser, elle va réémerger. Il y a un autre verset qui nous dit « Hashamaim shamaim lachem varet sonatan yivne adam » ce qui veut dire « Les cieux appartiennent à Dieu et la terre aux humains ». C'est joli, mais a priori, ça a l'air d'être faux. Parce que la totalité de l'univers est l'œuvre de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Non, mais les cieux, c'est Dieu, et puis la terre, c'est vous. Les cieux se disent en hébreu Shamaïm. Et Shamaïm, c'est entre autres la contraction de Esh ou Maïm, du feu et de l'eau. Les cieux, au niveau de la mystique, eh bien, sont constitués d'une forme d'osmose entre deux éléments qui ne peuvent coexister, mais qui malgré tout non seulement coexistent, mais créent quelque chose. Ça, Hashamaim, Shamaim, Lachem, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Sache qu'il y a quelque chose qui t'échappe radicalement dans la dimension du divin, qui est cette dimension de vérité absolue. C'est quelque chose qui ne t'appartient pas, à l'image du ciel, que tu ne peux comprendre. Par contre, Haaretz, la terre, là en effet, c'est sur terre que tu vas pouvoir véritablement réussir à comprendre à ton niveau, à toi. Et donc, rappelons-nous que la terre n'est terminée que lorsque la Torah est révélée. Pourquoi? Puisque le sixième jour de la création, il y a marqué Yom HaShishi, le jour, le sixième, l'univers a été terminé. Et nos maîtres de dire Yom HaShishi, le jour, le sixième, pronom défini, c'est pas juste pour nous parler du sixième temps de la création, du sixième jour, mais aussi pour faire allusion au six du mois de Sivan, jour de la révélation de la Torah. Traduit d'une manière différente, l'univers véritablement est considéré comme terminé, le jour où ce qui va donner du sens à l'univers apparaît dans cet univers à travers la révélation, puisque la Torah va être l'élément qui donnera à l'univers son sens, qui permettra à l'individu de comprendre que la finalité de l'être créé, c'est de retrouver son créateur et de le reconnaître, d'être à l'écoute de sa parole, et à partir de cela, l'univers arrive à son but. Donc, la terre dont on parle, eh bien, c'est une terre qui n'a sa raison d'être qu'à travers la Torah qui lui donne du sens. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de dire. Dieu prend la vérité et la jette au sol, et elle va repousser. C'est-à-dire que c'est sur terre qu'il n'a de raison d'être qu'à travers la Torah qu'on va pouvoir redécouvrir la vérité pour nous, à notre niveau. Traduit de manière différente, c'est la Torah qui va nous permettre de comprendre ce qui est l'univers du vrai ou ce qui n'est pas. Et comment est-ce qu'elle va nous aider à le comprendre ? En réinstallant la valeur du shalom, la valeur de la paix. Pourquoi ? Parce que vous savez que dans la Shemona Esrei, cette prière qu'on dit tous les jours, trois fois par jour, on demande beaucoup de choses à Dieu. Et la dernière chose par quoi se conclut la Shemona Esrei, c'est Sim Shalom, donne-nous la paix. Hamevarech et Amo Israël Bashalom, celui qui bénit le peuple d'Israël dans la paix. Pourquoi ? Parce que le Talmud nous dit que Dieu n'a pas trouvé d'ustensile pour recevoir la bénédiction si ce n'est la paix. La bénédiction, c'est quoi ? C'est le développement. C'est ce qui permet aux choses de se développer. Et pour que les choses se développent, eh bien, il faut qu'il y ait du shalom. Et donc, on comprend un petit peu mieux. Si on veut que l'univers avance, si on veut que l'univers progresse, si on veut que l'univers y ait un devenir, alors il faut que le shalom soit là. Mais le shalom ne peut pas être là si on est dans une vérité radicale et absolue. De tout instant, ce n'est pas possible. Et donc, il doit y avoir vraiment une forme de distorsion. Mais cette distorsion-là, on sait comment et quelles sont ses limites, comment elle se construit et quelles sont ses limites en interrogeant la Torah. C'est-à-dire, c'est la Torah qui va nous permettre de dire, là, en effet, tu n'as pas lieu de dire la totale vérité. Mais sinon, ici, tu dois exprimer les choses telles qu'elles sont, mais là, peut-être pas. Et on le voit d'ailleurs, de manière très très claire, avec Abraham. Lorsque Dieu annonce à Abraham, à Sarah, pardonnez-moi, à Sarai, à ce moment-là, qu'elle va avoir un enfant, elle rit et elle dit, mais t'as vu l'âge d'Abraham, Adonisaken, mon mari est vieux. Et quand Dieu rapporte à Abraham la conversation qu'il a eue à Sarah, avec Sarah, il lui dit, mais c'est quoi cette histoire ? Sarah rit, elle dit qu'elle est âgée et qu'elle ne peut pas, mais c'est pas vrai. Elle a dit, mon mari, Shina Katubit Nashalom. Le verset a changé, Dieu a changé la parole de Sarah pour que la paix soit présente. C'est-à-dire que le monde ne peut exister que si la paix est là. Si je dis l'exacte et totale vérité de manière systématique, c'est peut-être pas sûr qu'on arrivera à avoir cette paix. Et donc, ce qui est le lieu de la bénédiction qui correspond au développement du monde n'existera pas. Et comme on l'a vu, c'est à l'image de tout ce qui a trait dans le domaine de l'intime. Si on s'en écarte totalement, radicalement, absolument, il n'y a plus de futur, de la même manière. Et à partir de là, on va même analyser le mot vérité en hébreu. Le mot vérité en hébreu se dit émet. Au-delà du fait que, comme tout le monde le sait, émet, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre intermédiaire et la dernière lettre. Au-delà du fait que dans la graphie des lettres, chacune de ces trois lettres a deux pieds, c'est-à-dire a une structure forte qui tient par elle-même, avec le mot émet, vous faites un autre mot. Et c'est quoi cet autre mot ? C'est le mot tohem. Tohem, avec un tav, tav aleph mem, c'est hat-ama. Hat-ama, c'est adéquation. La vérité, c'est au fond s'interroger sur l'adéquation qu'il y a entre ce que je vais exprimer et la volonté du Créateur. Et je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez un enseignant avec des parents d'élèves qui viennent le voir et qui lui demandent comment fonctionne l'enfant. Dans les deux cas, les enfants dysfonctionnent en classe, ils font des bêtises. Seulement, le prof sait que le premier groupe de parents, s'il leur dit que l'enfant fait des bêtises, l'enfant revient le lendemain matin avec un œil au beurre noir à l'école. Par contre, pour le second couple, il sait que s'il leur dit que l'enfant fait des bêtises, eh bien le couple va s'interroger, va se dire « mais qu'est-ce que cet enfant veut nous faire passer comme message en dysfonctionnant ?» Traduit de manière différente, ils vont voir dans son dysfonctionnement un symptôme, ils vont chercher le syndrome. Dans le premier cas, dire la réalité des choses telles qu'elles sont, c'est détruire. Dans le second cas, c'est construire. Et c'est là où en effet se trouve tout l'enjeu de la vérité. Et si vous analysez, et ça serait l'objet bien sûr d'un autre développement, eh bien vous constaterez que tout ce que l'on croit être distorsion de la vérité minime avec Yaakov, en vérité, a sa raison d'être et les choses doivent justement se passer à travers cela. C'est comme ça que véritablement il doit construire l'histoire. Donc, à partir de là, on a quelque chose au fond de génial. On comprend l'importance fondamentale de la vérité. La vérité, on va la chercher à l'intérieur de ce que la Torah nous propose. Mais la Torah est là pour que le monde avance, et pour que le monde avance, il faut qu'il y ait le shalom. C'est dans la tension entre ces deux concepts que l'on va véritablement construire une parole qui pourra permettre au monde d'avancer et d'advenir.
J'adore ce que vous venez de dire, Rabbi Lemel. Vraiment. Vraiment. Parce que, en disant la vérité, nous, finalement, qu'est-ce qu'on pense un peu ? La vérité, émet encore plus quand on le dit en hébreu. En fait, on pense quelque part à Dieu. C'est la vérité. Voilà, c'est le... Et pour nous, c'est quelque chose, bon, disons pour moi, parce que je ne peux pas parler pour les autres, donc pour moi, c'est un truc qui est absolu, puisque c'est divin, donc c'est absolu. Et ce que vous nous expliquez là, c'est que oui, mais on ne parle pas de celle-là de vérité. Et c'est vraiment c'est incroyable ce que vous venez de nous dire. Vous avez dit non, mais nous, on parle de la vérité de l'homme. Et justement, on a tous vécu ça, et plus on mûrit, et plus on le sait, plus on a eu d'enfants, et plus on le sait. Notre vérité à nous, hommes, elle n'est pas absolue. Et c'est ça que j'entends dans ce que vous nous dites, nous. Notre vérité à nous, elle est... La vérité, elle est absolue dans le sens où c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais non, elle a plein de facettes, c'est magnifique. Je vais me permettre, avant de nouveau vous céder la parole, de raconter une histoire qui est une histoire tout à fait vraie. C'est le cas de le dire. Je connais une personne qui a contracté un cancer. Et toute sa famille, ses enfants, en fait, ont décidé de ne pas lui dire. Parce que c'est ça la vérité qu'il faut. Et ils sont, disons qu'ils n'ont pas dit la vérité, mais ils sont certains d'être dans la vérité. Il ne faut pas lui dire, ça ne sert à rien, elle a 88 ans. Ne lui dis pas. Et les médecins ont fait le contraire, parce qu'ils avaient une autre vérité. Ils ont dit, à partir de maintenant, il faut lui dire, parce que nous, on ne soigne pas les gens contre leur gré, et si elle ne sait pas ce qu'elle a, nous, on ne lui donne pas les médicaments. Et c'est une autre vérité. Et c'est que des êtres humains qui sont confrontés les uns aux autres, avec, est-ce qu'on peut dire des vérités, d'ailleurs, Ravilly Lemel, c'est comme ça que je vous cède de nouveau la parole. On pourrait dire des vérités, il ne peut pas y avoir des vérités, c'est ou vrai ou c'est faux.
Alors, c'est là où, en effet, se trouve tout l'enjeu, et c'est pour cela que je me suis permis de dire que, Hat'ama, il faut être en adéquation avec ce que la Torah nous dit. Et c'est là où, en effet, on a besoin du rapport au maître, on a besoin d'aller interroger ceux qui nous donnent la Torah, et qui, eux, vont nous dire, en effet. Et c'est pour cela que ce genre de questions, d'ailleurs, il peut arriver que certaines personnes m'interrogent sur ça, et je suis tellement heureux d'avoir mes propres maîtres vers lesquels je peux tourner ces questions.
C'est eux qui répondent.
Parce que ça fait partie des questions les plus fines, parce qu'il y a des enjeux. Alors, bien sûr, il y a certains concepts, certaines situations où on peut savoir, mais certaines situations, on est sur des choses extrêmement fines, parce que ne pas dire tout pourrait détruire, mais dire tout pourrait détruire, et comment est-ce qu'il faut évaluer les choses, c'est là, en effet, que se situe l'enjeu. On se rappelle que Aaron, qui est pleuré par tout le peuple d'Israël quand il disparaît, c'est celui qui aime la paix, mais comment est-ce qu'il fait pour mettre la paix? Eh bien, il va voir quelqu'un, il lui dit, ah là là, ton ami avec lequel tu t'es disputé hier, hein, il le regrette beaucoup, alors que pour l'instant c'est complètement faux. Mais comme il dit la même chose aux deux, alors les deux sont persuadés que l'autre regrette, et quand ils se revoient, eh bien ils tombent les bras dans les bras l'un de l'autre. Alors voilà, c'est ça un petit peu, mais c'est Aaron HaKohen. Et je crois que s'il y a bien des domaines dans lesquels nous nous devons d'interroger nos Chachamim, nos maîtres, pas nécessairement nos enseignants, nos maîtres, c'est-à-dire des personnes qui non seulement ont un savoir, mais une expérience, et un recul, et qui ont toute l'humilité nécessaire pour être dans cette conscience de la dimension impliquante et des réponses qu'ils vont donner, eh bien c'est là où il faut savoir se tourner vers eux pour savoir à quel moment être vrai dans la définition que la Torah nous donne, telle que ça doit s'exprimer dans le monde dans lequel nous sommes, nous.
Vraiment, on a appris plein de choses, vraiment. En plus, on va vous demander de revenir la semaine prochaine, vous nous faites la même chose avec Intègre, ça va encore. On va encore en avoir pour une demi-heure, pour moins, pour comprendre. Ravilly Lemel, je vous remercie. Et Shavua Tov.
Shavua Tov.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai.
Shalom Aleichem, Shavuatov.
Shavuatov. Allez, on se fait le plaisir de continuer à réfléchir un peu sur Toldot. Et vous dites qu'on voit très bien que dans cette paracha, il y a une réflexion sur la vérité et le mensonge, le vrai et le faux. Et on le voit dans plein d'aspects de la paracha, pas seulement une fois. Alors c'est vrai
oui,
que...
Oui, c'est
bien,
c'est
très... Allez. Non, non, je disais, je vous écoute.
Ah, d'accord. C'est vrai que c'est très d'actualité, effectivement, parce que voilà, sur la scène médiatique aujourd'hui, Israël et le peuple juif, d'une certaine manière, luttent pour faire entendre sa vérité. Et donc, la problématique de la vérité du mensonge, elle est au cœur de cette paracha. Alors, c'est très intéressant parce que finalement, de quoi il s'agit ? Yaakov, donc, se voit confier la mission par Rivka de récupérer les bénédictions que Yitzhak veut donner à Esav. C'est quoi les bénédictions ? C'est en fait, bah, tout simplement, la force de prolonger l'œuvre de Yitzhak. D'accord ? L'œuvre d'Abraham, l'œuvre d'Yitzhak, va être prolongée par qui ? Bah, par le fils que Yitzhak aura choisi. C'est ça, les bénédictions. Les bénédictions, c'est une force spirituelle, psychique, mentale, au niveau personnel, au niveau historique, qui va être donné à un des personnages. Alors, on voit ici quatre personnages qui sont à l'œuvre, d'accord ? Il y a donc Esav, qui est sollicité pour aller chasser du gibier, le ramener à son père et recevoir les bénédictions de son père. Yaakov et Rivka, de l'autre côté. Yaakov, qui est missionné par Rivka pour empêcher ça. Et Yitzhak. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, finalement, il y a quatre personnages et finalement, quatre conflits entre le vérité et le mensonge et quatre arbitrages. Alors, commençons par Rivka. Rivka, elle voit Beruach HaKodesh dans son esprit saint que Yitzhak s'apprête à donner la primauté à Esav. C'est-à-dire qu'elle comprend que Yitzhak va dire, dans ce monde-ci, Yaakov n'a pas de part. Yaakov, c'est Israël, c'est le peuple juif, il reçoit la Torah, sa part, elle est spirituelle. Il n'a pas de part dans ce monde. On va donner à Esaü, la possibilité de régner dans ce monde. Et là, elle va voir Yaakov, elle lui dit stop. C'est pas possible, parce qu'en fait, c'est vrai qu'à un certain niveau, on peut comprendre que dans ce monde, Israël n'a pas de part, parce que la part d'Israël est purement spirituelle. Mais il y a autre chose, c'est que tes descendants, et le peuple juif tout au long de l'histoire, il faut qu'il ait des armes pour affronter tout ce qu'il va devoir affronter avec Esav, avec Esaü, avec l'Occident, et plus tard même avec Ishmael, avec le monde musulman, dans les galouillottes, dans les exils. Donc il faut que tu récupères cette bracha. Et puis il y a aussi autre chose, c'est qu'en fait cette bénédiction, elle te revient, parce que la bénédiction, de la même manière que Avraham l'a donnée à Yitzhak et pas à Ishmael, parce que Yitzhak prolongeait l'œuvre de Avraham, de la même manière, c'est toi qui la prolonges. Donc c'est toi qui vas aller la prendre. Réaction de Yaakov, mais mon père, il va me voir, il va tout dire que c'est moi. Et donc se monte ici tout un stratagème. Donc Rivka, elle a arbitré. Ce qui est vrai, c'est d'abord que l'œuvre d'Abraham, elle a été prolongée par Yitzhak. Et donc l'œuvre d'Yitzhak, elle doit être prolongée par un homme de Torah, l'homme qui incarne la Torah, c'est Yaakov. Voilà la vérité. Yaakov, lui, il rentre en conflit parce qu'il dit, pour accéder à cette vérité, il faut que je fasse quelque chose qui ne ressort pas de la vérité. Et donc là, Yaakov, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va être au point de tout un stratagème avec Rivka. Il va devoir, devant son père, pour récupérer ce qui lui revient, utiliser un moyen qui n'est pas le sien. C'est ça qui est intéressant. C'est que Yaakov utilise un moyen contourné, c'est un contournement, un moyen qui n'est pas le sien, parce que lui, c'est un Ishemet. Et là, ici, il faut comprendre une chose. C'est que ce que Yaakov va faire, en vérité, c'est qu'il va utiliser effectivement un moyen qui est quand même le sien. Parce que finalement, ce ne sont pas toujours les méchants qui gagnent. Le tzaddik, le juste, peut aussi gagner. Et comme le dit David Ameller, avec quelqu'un qui est tordu, tu peux toi aussi utiliser des chemins tortueux. Et donc Yaakov va utiliser ce passouk-là d'ailleurs, et rappelé au sujet de cet épisode. Et donc Yaakov va utiliser un chemin tortueux pour aller récupérer ce qui est à lui. Et Esav, lui, quand il revient, il est exposé à sa propre sincérité, mais en même temps à ses mensonges. Parce qu'il dit, mais c'est pas possible, comment se fait-il que Yaakov a réussi à subtiliser les brachot ? Et là, il demande à Yitzhak de lui donner une bracha. Alors, Yitzhak va lui donner une bracha qui est terrible. Tu vivras par ton épée. Tu pourras régner sur ton frère quand ton frère va rejeter le joug de la Torah. Mais s'il garde le joug de la Torah, tu pourras pas régner sur lui, tu pourras rien faire pour lui. Qu'est-ce qui se passe en vérité ? Dans sa sincérité, ici, Esav, il pleure, il implore, il est sincère. Mais qu'est-ce qu'il rencontre ? Ses mensonges. Parce que tu demandes une bracha, une bénédiction pour être la prolongation de Yitzhak, mais tu n'en veux pas de ça, parce que tu es un voleur, un violeur, un menteur et un assassin. Tu n'en veux pas, toi, de la Torah. Donc cet homme sincère, qui est finalement le seul homme, entre guillemets, sincère, qui apparaîtrait sincère dans un film, en vérité, c'est l'homme des mensonges. Et il rencontre ses propres mensonges. Et à la fin, on rencontre Yitzhak. Yitzhak, il va confirmer la bracha, il va dire « Gam Baruchi ». C'est à ce sujet, d'ailleurs, que le Midrash, dans Parashat Toldot, dit que l'homme a 6 membres, 3 qu'il contrôle et 3 qu'il ne contrôle pas. Ceux qu'il contrôle, ce sont ses mains, ses pieds et sa bouche. Ses mains, parce qu'il peut faire ce qu'il veut avec ses mains, ses pieds, parce qu'il peut aller où il veut, et sa bouche, il peut dire ce qu'il veut. Mais par contre, ses yeux, ses oreilles et son nez, il ne contrôle pas. On voit des choses qu'on n'a pas envie de voir, on sent des choses qu'on n'a pas envie de sentir, et on entend des choses qu'on n'aurait pas envie d'entendre. Quand quelqu'un devient tzaddik, il perd complètement le contrôle de son être. Il est complètement dans les mains d'Hachem. Et donc, ce qu'il contrôlait, les mains, les pieds et la bouche, il ne le contrôle plus. Et donc, Yitzhak, par exemple, et là, le Midrash va donner l'exemple de Yitzhak, il va dire, Yitzhak, il était tellement le véhicule de la vérité d'Hachem qu'il va exprimer face à Esav la vérité d'Hachem. Gambaruchie, il faut que les brachot tombent effectivement chez Yaakov. C'était pas ce que moi je voulais, mais en fait, Hachem m'a utilisé, moi qui suis un outil de vérité, pour faire triompher sa vérité. Et donc, on voit ici quelque chose de très intéressant. C'est que finalement, le menteur qui est Esav, dans cet épisode, il a rendez-vous avec ses mensonges. Alors que Yaakov, qui est un homme de vérité, il va devoir cheminer au milieu de l'incertitude pour arriver à son but final, qui est le triomphe de la vérité. Et ça, c'est un grand enseignement, parce que le peuple juif, tout au long des exils, et maintenant encore aujourd'hui, dans cet exil qu'on vit et qu'on espère se terminer bientôt, le peuple juif, il est obligé de lutter pour faire expliquer la vérité de ses choix, la vérité de sa pensée. Il est obligé de lutter. Et il se heurte en permanence à des mensonges, à des shékers, à quelque chose qui tente de détruire cette vérité. Et c'est très prégnant parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je dis particulièrement pour ceux qui sont en France, on a suivi un petit peu hein, l'attitude des politiques, on voit bien que la vérité d'Israël, et je ne parle pas de l'État d'Israël, c'est la vérité du peuple juif. Qu'est-ce qu'il dit le peuple juif en ce moment? Il dit, on a affaire à des gens qui veulent nous exterminer. Mais le monde répond, oui, mais vous êtes vous aussi des exterminateurs. Enfin, certains répondent ça. Comme si, en quelque sorte, on voulait ignorer qu'ici, on ne fait que se défendre et qu'on ne vient pas provoquer des guerres. Eh bien, cette confrontation-là, entre cette proclamation de la vérité, cette recherche de la vérité, et en face, le mensonge et le cynisme pour faire apparaître un mensonge comme étant une vérité, ce conflit-là, il surgit à l'aube de l'histoire du peuple juif, quand Yaakov doit se battre pour récupérer ses brachot. C'est ce qui accompagne le juif dans l'exil. Ce qui accompagne le juif dans l'exil, c'est qu'il veut porter une parole qui est une parole de Emet, une parole de vérité, mais qu'il sera toujours face à des gens qui utiliseront le shéker, le mensonge, comme une arme soi-disant de vérité. voilà un des faits marquants de l'exil du peuple juif. La vérité finit par toujours triompher parce que le tribunal de l'histoire est finalement très intransigeant avec les menteurs d'il y a 50 ans et d'il y a 60 ans, et simplement que le peuple juif doit intégrer dans son équation le temps. Parce que dans l'exil, les réponses viennent avec le temps. Dans les exils que nous traversons, les réponses viennent après un certain temps que le peuple juif a passé à se relier à sa propre vérité, à vivre avec sa vérité, parce qu'il ne suffit pas de dire on a raison. Il faut aussi qu'on soit capable de montrer au monde à quel point on tient à nos propres vérités. Je parle ici de vérité spirituelle, parce que le monde, et notamment Esav et l'Occident, ne peuvent nous respecter que lorsque nous sommes dans notre vérité sur le plan spirituel, et même Ishmael d'ailleurs. Il y avait une histoire, et je vais conclure avec ça. Salah al-Taoumi a été emprisonné en Israël pendant plusieurs années, et une fois, il a vu un gardien de prison, un juif, qui mangeait du pain pendant Pessah. Alors il a dit, mais t'as pas le droit, toi, de manger. Il a dit, moi, ça m'intéresse pas, ce qui s'est passé il y a 4000 ans, ça me concerne pas. Il a dit, le jour où j'ai vu ce juif faire ça, j'ai compris qu'on pouvait les vaincre. C'est-à-dire que, quand nos ennemis nous regardent, et ils voient bien, est-ce que oui ou non, on tient réellement à notre vérité? Est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'au bout de notre vérité? Voilà l'enjeu, voilà le défi, et on le vit aujourd'hui encore dans l'actualité, mais en fait, il est présent donc dès l'aube de l'histoire dans cette parasha de Toldot, dans cette confrontation, cette rencontre entre les quatre personnages ici, et qui finalement est arbitrée au profit de Yaakov. Voilà, Shavua Tov.
Eh bien, Shavua Tov, on va essayer effectivement de se maintenir sur cette idée de Emet, cette idée de vérité. C'est vrai qu'on réfléchit des fois en termes de le bien, le mal, ce qui est juste, ce qui est pas juste, mais il y a aussi cette idée de vrai et de faux, et c'est très important. Je vous remercie Rav Mordechai Biton à Jérusalem et je vous dis Shavuot Tov.
Shavuot Tov.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay et Shavuot Tov.
Bonsoir et Shavuot Tov.
Alors Rav Gay, vous allez nous surprendre ce soir parce que par un fait extraordinaire, vous avez réussi à trouver qu'on parle de Rabbi Yehuda HaNassi dans notre paracha. Alors qu'on comprenne bien, La paracha, tout le monde le sait, c'est ce chapitre qu'on lit chaque semaine dans nos communautés, qui est de la Torah. Et Rabbi Yehuda Hanassi, c'est celui qui a compilé la Mishnah. Donc c'est le Talmud. Donc moi qui suis un petit élève, pour moi c'est pas le même livre. Mais c'est pas d'ailleurs très difficile à savoir que c'est pas le même livre. Alors comment vous avez fait pour nous trouver qu'on parle de Rabbi Yehuda Hanassi dans la Torah et dans Toldot?
Alors très bien. Il y a en fait un Rashi dans la paracha, sur en fait le début de la paracha, où Rivka est dérangée par Vayit Rotsetsu Habanim Bekirba. On dit que les deux fœtus qui étaient dans son corps se littéralement s'entrechoquaient, se disputaient. Et donc elle a été très perturbée et elle est allée demander, elle est allée consulter et on lui a répondu qu'elle aurait Shnei Goyim Bevitner. Alors deux peuples dans ton ventre, évidemment il s'agit d'Esav et de Yaakov. Et en fait, il y a une autre lecture qui dit non pas Shnei Goyim, mais Shnei Geim. Geim, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, mais ça veut aussi dire quelqu'un qui est c'est un notable, c'est une personne distinguée. Et c'est dans ce sens qu'il faut le comprendre. Il y a deux grands notables, deux grandes personnalités dans ton ventre. Yaakov et Esav. Ah oui, Esav, une grande personnalité, ça paraît choquant. Alors Rashi explique qu'il y aura une histoire, un moment dans l'histoire où il y aura un homme qui s'appellera Rabbi. Alors aujourd'hui, on parle du Rabbi, on pense au Rabbi Lubavitch. Mais dans la Mishnah, dans la Gemara, lorsqu'on parle de Rabbi, sans donner de plus de détails, on sait que c'est l'auteur de la Mishnah. Donc son nom, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda, le prince. C'était le Gadol Hador, le grand maître de la génération, le prince de la génération, un homme qui a eu dans sa main, comme dit la Torah, la Gemara, Torah et Gdoula, c'est-à-dire la connaissance, l'érudition, et en même temps, la grandeur. Ça veut dire qu'il était riche, il avait énormément de kavod, d'honneur, et même le chef romain, Antoninus, Antonin, descendant des Saves, parce que romain, était un ami proche de Rabbi. Ils étudiaient ensemble. Et cet homme, le romain, il est cité par la Gemara, et la Gemara, des fois, lui donne raison. Rabbi Yehuda Hanassi lui donne raison sur certains domaines, comme par exemple le sujet de savoir quand est-ce que le mauvais penchant rentre dans l'homme. C'est Antoninus qui aura le dernier mot, c'est vraiment où l'enfant, où le fœtus sort du corps de sa maman. Donc on voit de nombreuses fois dans le Talmud cette discussion entre Rabbi, donc je vous rappelle, c'est le dernier des Tanaïm, on est en plus 200 de l'ère chrétienne, donc on est en train de finir la Mishnah, la période Mishnah, et après il y aura la période talmudique, la Gemara avec les Amoraïm, de l'an 200 à l'an 500 de l'ère chrétienne. Et donc pendant cette période, Rabbi Yehuda Hanassi prend une initiative absolument, on va dire, très très risquée pour lui. Il fait quelque chose qui est a priori une interdiction, une transgression. Laquelle ? C'est que la Torah orale est censée rester orale. Par définition, elle est en orale, donc ne doit pas être écrite. Mais Rabbi sent que les temps changent, que les Romains vont devenir extrêmement, agressifs. Le peuple juif va se disperser et il pense qu'il y a une urgence absolue à écrire la Torah orale. Et il va créer donc cet ensemble qui s'appelle la Mishnah, qui réunit les enseignements de la Torah orale d'une façon très succincte. Puis après, il y aura la Gemara qui va développer, qui est écrit dans la Mishnah, ça s'appelle le Talmud, Talmud de Babylone, Talmud d'Yerushalayim. Et donc, ces deux Talmud qui vont commenter les Mishnayot écrits par Rabbi, parce qu'il a dit, il n'y a pas le choix, sinon c'est l'oubli de la Torah orale. Rabbi Yehuda Hanassi. Donc ça, je vous remarquer que le mot Nassi, c'est les premières lettres, l'acrostiche de Nitzot, Shel, Yaakov, Avinu. Il est l'étincelle de l'âme de Yaakov, été réincarné dans le corps de Rabbi Yehuda Hanassi. Et donc, c'est pas étonnant qu'on parle de lui dans la paracha en rappelant que c'est un des descendants les plus prestigieux de Yaakov Avinu. De la même façon, chez Esav, nos sages nous font remarquer qu'il est appelé Saïd Befiv. Donc, la traduction première, c'est de dire qu'il était un chasseur et qu'il, le produit de sa chasse, il les mettait dans la bouche de son père. Il les proposait à son père qu'il les mangeait. Mais il y a une autre lecture qui n'est pas l'explication simple du texte. Saïd Befiv, il y a une capture à faire au niveau de la Torah orale. Les descendants de Esav vont être des maîtres de la Torah orale, à qui on pense ni plus ni moins que Rabbi Meir, que tout le monde connaît. Il y a Rabbi Akiva, et il y a Shmaya ve'Avtalion, et Avtalion, bref, des sommités qui ont été les grands maîtres de la génération, qui sont des descendants d'Esav. Et là, je viens de citer Antoninus, Antonin, qui est resté romain, qui ne s'est pas converti, et qui était un intime de Rabbi. Un intime, une chavruta, un enchant, quelqu'un, ils échangent, ils étudient ensemble, quelque chose d'extraordinaire. Onkelos, le traducteur en araméen de la Torah écrite, est un membre de la famille impériale romaine. Tout ça pour vous expliquer que quelque part, chez Esav, on doit capturer, c'est-à-dire prendre chez nous quelques âmes, quelques personnalités, et elles vont se devenir juives, et elles vont être des enseignants, des grands donc transmetteurs de Torah. Rabbi Yehuda Hanassi, il a eu un privilège tout à fait spécial. Il revenait tous les vendredis faire le kiddush à son épouse. Il a dit à ses enfants avant de mourir, « Préparez-moi chaque vendredi soir ma place, mon plat, préparez ma place, je reviendrai. » Après sa mort, il revient faire le kiddush pour son épouse et sa famille tous les vendredis soirs. Et une fois, une voisine a pu voir, entendre la voix de Rabbi. Et donc, cette voisine, ayant vu la présence de Rabbi, Rabbi a cessé de venir au Kiddush le vendredi soir parce qu'il ne voulait pas que ce soit connu à l'extérieur. Pour différentes raisons, je rentre dans les détails. Rabbi Yehuda Hanassi a eu ce mérite incroyable de revenir le vendredi soir parce qu'il a, selon certains, eu le mérite d'enseigner un enseignement tout à fait incroyable, celui que Tisha B'Av, qui tombe Shabbat, Shabbat qui tombe Shabbat, vous savez que qu'est-ce qu'on fait, nous, si Tisha B'Av tombe Shabbat, si le 9 Av tombe Shabbat, eh bien, on fait Tisha B'Av le lendemain, dimanche, le 10. Et lui, il a dit la chose. Il a dit, si Tisha B'Av tombe Shabbat, eh bien, on ne fait pas Tisha B'Av cette année-là. Une année où Tisha B'Av tombe Shabbat, on ne fait pas Tisha B'Av. Voilà ce qu'il a enseigné, il a prouvé à travers un nombre de déductions. Et quelque part, il montre ainsi son respect incroyable pour le Shabbat. Le Shabbat peut faire sauter Tisha B'Av. Et on l'a récompensé en lui donnant la possibilité de venir vendredi soir faire le kiddush pour son épouse, et également en lui donnant un mérite incroyable. Il est décédé un vendredi. Et donc, il y a eu de très nombreux éloges funèbres. Je vous rappelle le grand maître de la génération. 18 rabbins, 18 personnalités ont parlé. Comme c'était vendredi, il y avait un problème, c'est que le Shabbat arrivait. Et comme Rabbi Yehuda Hanassi avait un respect incroyable pour le Shabbat, je vais donner un exemple, le soleil a retardé sa course. Et tout le monde a pu écouter tous les discours de tous les rabbinim qui voulaient faire un hommage appuyé à Rabbi Yehuda Hanassi, donc au jour de sa mort, au moment de son enterrement. Et ils ont pu tous rentrer chez eux et avoir le temps de préparer au moins de quoi cuire de l'eau, etc., faire le minimum pour les préparatifs du Shabbat. Tout ça pour vous expliquer la dimension incroyable de notre maître Rabbi Yehuda Hanassi, qui est en fait une étincelle de Yaakov Avinu. Et comme vous le savez, Yaakov Avinu On dit de lui que celui, il a un héritage sans limite. Il va s'élargir, il va se répandre aux quatre points cardinaux. Et on nous dit que celui qui honore le Shabbat, eh bien justement aussi, il aura une nachala, un héritage sans limite, comme Yaakov Avinu avait un héritage sans limite. Alors, il faudrait expliquer ce que ça veut dire exactement. Et ce que je veux montrer, c'est qu'entre Yaakov et le Shabbat, il y a un lien intime dans le voie d'urne, et il y a un lien intime entre Rabbi Yehuda Hanassi et le Shabbat. Comme je l'ai prouvé, mais évidemment, ça mériterait de longs développements. Mais pourquoi je le dis ça aujourd'hui ? C'est pour vous rappeler quelque chose. Chez Esav, il y a quelque chose, il y a des descendants qui resteront dans notre histoire, des personnalités qui comptent dans la transmission, dans la tradition juive et dans la transmission de la Torah, et qui vont être des maîtres incontestés, incontestables du judaïsme. Donc quelque part, Esav, s'il traque l'aime, pour ça je vous dis que il l'aime, c'est parce qu'il capte, il sent qu'il y a chez Esav quelque chose à récupérer, à prendre chez nous. Et il ne se trompe pas. Il y a chez Esav des choses qu'il va falloir récupérer, mais malheureusement, lui, Esav, va mal tourner, comme vous le savez, et il ne va pas recevoir les brachot. Mais lorsque Yitzhak veut le bénir, et qu'il veut bénir des éléments qu'il ressent très profondément chez Esav, et qui vont s'avérer exacts des années et des années beaucoup plus tard. Voilà un petit peu le message que je voulais vous transmettre. Je pense que rappeler le mérite de cet homme, Rabbi Yehuda Hanassi, le rabbi de la Mishnah, de la Gemara, c'est vraiment à laisser un héritage incroyable qui s'appelle la Mishnah, qu'on étudie d'ailleurs, c'est bien d'étudier à la mémoire des défunts, parce que le mot Mishnah, c'est la même lettre que le mot Neshama. Je m'en parlais toujours lorsque le Rav Shach, le Seigneur des Brachas et l'Istar, et que j'étais à l'Eshiva, et il nous avait demandé à ses élèves de lire des Mishnayot à sa mémoire, en disant que c'était quelque chose d'extrêmement puissant. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui étudient les Mishnayot, qui distribuent le Shas, Shishas Darim, sachant que les mots de la Mishnah ont été extrêmement, on va dire, ont été choisis avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de force par Rabbi Yehuda Hanassi, de manière à ce que ça reste la Torah orale, qu'elle nécessite beaucoup d'explications de Mishnah, c'est pas facile à comprendre, même si on sait traduire. Et en même temps, c'est écrit. C'est écrit et en même temps, ça demande un travail important pour interpréter les mots de la Mishnah. Donc c'est resté une Torah orale, tout en étant écrite, et donc c'est un savant mélange entre Torah écrite, Torah orale, c'est-à-dire un moyen de forcer les gens d'avoir un rav pour leur expliquer la Mishnah, et en même temps, laisser des traces écrites pour que ça ne s'oublie pas. Donc je vais souhaiter à tout le monde une très très bonne semaine, Shavua Tov, et qu'on soit toujours, on ait le mérite tous d'étudier la Torah orale, la Mishnah, Amen. Qui est la vraie interprétation de la Torah.
Amen. Et on retrouve d'ailleurs dans le schéma, Bam, Bereshit et Meimatai, les deux, c'est les deux pieds de notre tradition. Rav Guy, je vous remercie. C'est à mon tour de vous souhaiter Shavua Tov en reprécisant ce que tout le monde a compris, c'est que cette émission est évidemment enregistrée le jeudi ou le vendredi. Et on a pris sur nous, au moins jusqu'à la fin des événements, nous dans cette émission, au moins jusqu'à la fin des événements en Israël, de créer du lien ce soir en appelant quelqu'un, aujourd'hui ou demain dimanche évidemment, et en faisant une mitzvah qu'on n'a pas l'habitude de faire. Par exemple, vous aviez dit la semaine passée, la Havdalah pour ceux qui ne la font pas. Et ceux qui font la Havdalah, et ben, ils, comme moi, ils font autre chose, ils essayent de rajouter quelque chose.
Non, mais je vous dis tout de suite quoi. La Seouda Réveillit, la quatrième repas, on appelle Melave Malka. On n'est pas obligé de manger beaucoup, hein. On a beaucoup mangé Shabbat, donc c'est pas facile de manger encore. Mais un kazaït, 30 grammes de pain, on peut plus, ou 50 grammes, c'est encore mieux. De pain, c'est facile, enfin, c'est à portée de tout le monde.
Magnifique. Allez, formidable, et on le fait évidemment pour ceux qui sont face à l'adversité, notamment les otages. Je vous remercie, Rav Guy, Shavua Tov.
Shavua Tov.
Voilà, cette émission est à présent terminée, mais vous retrouvez une autre émission enregistrée qui est du côté de chez Schwartz, qui vous est présentée par Sandrine Schwartz. Excellente soirée à tous.
שחם לא יבוא נבוא, אם השם לא ישמרי, שחם שקד שחם נבוא.